With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de podcast avec bien sûr l'excellent Arnaud Bordelais. Salut Arnaud.
Salut Raph, merci de m'accueillir encore une fois dans Poulain Raffut. Hein. Vous savez, Poulain Raffut, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter un peu partout, hein, dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans la voiture, dans le métro ou un peu partout en France. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, Deezer, Spotify, Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. Si ça remplit pas son frigo, ça flattera son ego. De cette façon, vous recevrez en plus chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour. Un invité de poids qui pèse lourd, qui pesait lourd à l'international.
Toujours cette capacité à me défoncer quand même juste avant l'arrivée de l'invité quand même. Hein, je tiens à le préciser. Allez. Il y a des décisions parfois qui étonnent et qui détonnent dans notre petit monde du rugby. Non, je ne vous parlerai pas aujourd'hui de Gaël Ficou et de son passage de l'autre côté du périph en pleine heure de pointe au beau milieu d'une saison où tout est vraisemblablement possible, même de passer chez l'ennemi au beau milieu de la bataille. Du jamais vu, comme la décision de Jefferson Poirot de ne plus vouloir porter le maillot de l'équipe de France. Blasphème, diront certains, hérésie, diront d'autres. Oui, ce sont des mots un peu à la mode quand même en ce moment. Et pourtant, moi, je le comprends, Jefferson. On dit que le rugby a changé, que les hommes ne sont plus les mêmes, que cette nouvelle génération est déresponsabilisée, patin, coup fin, que ça se footballise, mais fermons-la un peu et observons au-delà des apparences. Est-ce qu'on les écoute vraiment, ces joueurs, avant de les clouer au pilori ? On pourrait croire que tout bon rugbyman qui se respecte devrait crever pour son équipe, pour son maillot. Eh bien, c'est le cas pour Jefferson Poirot, et pourtant, il passerait presque pour un incompris. Le type est capitaine de l'UBB, compte une bonne trentaine de sélections en équipe de France. Il est dans le circuit depuis bientôt 10 ans, et même pas 30 ans, et décide de mettre un terme à sa carrière internationale alors qu'il est appelé dans le groupe de Fabien Galthié. Et tout ça pourquoi ? Pour se consacrer pleinement à sa vie de papa et de gagner des titres avec son club de l'UBB. En plus de ça, il veut aussi se consacrer à sa future vie professionnelle. Personnellement, je trouve ça exemplaire comme décision à l'heure où nous avons tous besoin d'exemples inspirants, de parcours atypiques pour nous sortir de cette sinistre ambiance où le fameux « faire carrière à tout prix » prend le pas sur certaines valeurs essentielles pour que notre sport reste un sport à part. Né à l'Isle-Adam, formé à Lalinde, il débute à Brive sa carrière pro avant de devenir à Bordeaux l'un des meilleurs piliers de sa génération. Parce que Bordeaux vit une année exceptionnelle avec sa qualification dans le dernier carré de la Coupe d'Europe, même s'il n'est pas encore qualifié pour les phases finales, parce que la décision de ce jeune homme est honorable et que son choix est respectable en tout point, je suis ravi d'inviter Jefferson Poirot dans Poulain Raffut. Salut Jefferson.
Bonjour Raph, tu vas bien ?
Ouais, écoute, ça va, je suis ravi. Comme je le disais, j'avais lancé l'invitation il y a quelques mois, mais ce n'était pas le moment pour toi. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. Alors moi, ma première question, c'est de savoir comment tu vas, parce qu'on sait que tu as été déclaré positif au Covid. On ne va pas parler encore d'entraînement, parce que j'ai cru comprendre en off, juste avant que l'émission commence, que tu étais un peu dans le dur.
Ouais, un peu dans le dur. Je suis en train de me remettre, mais j'ai encore quelques symptômes. En plus de ça, on a quelques cas au niveau du club, comme j'ai pu le lire justement sur Rugbyrama. Donc on est un peu à l'arrêt, on s'entraîne un peu chacun dans notre coin, mais ça va revenir à la normale bientôt.
Justement, Jeff, est-ce que cette pause, en raison de du contexte sanitaire au sein de l'UBB, est-ce que tu as peur qu'elle vous casse la dynamique dans laquelle vous étiez engagé? Vous sortiez d'une qualification pour la demi-finale de Champions Cup. En championnat, tout se passait plutôt bien. Vous étiez, je crois que vous êtes cinquième aujourd'hui au classement du top 14, engagé dans cette course pour la phase finale après laquelle vous courez depuis longtemps. Est-ce que tu as cette crainte que ça vous casse cette dynamique?
Non, pas forcément cette crainte que ça nous casse la dynamique. Mais après, c'est sûr qu'il faudra rester, je pense, très sérieux et essayer de garder juste le fil jusqu'à cette demi-finale maintenant parce que Agen, ça a été annulé. A priori, Montpellier, ça va l'être aussi. Donc maintenant, il faut garder le cap. Je crois qu'on peut reprendre l'entraînement lundi. Donc voilà, il faut juste rester concentré. Et puis après, il faudra jouer le coup à fond.
J'aimerais qu'on parle de la Coupe d'Europe. Justement, Arnaud l'a dit, je l'ai dit en introduction, vous êtes qualifié pour les demi-finales de Champions League. Comment on le vit en tant que capitaine? Puis ça fait quand même quelques années maintenant que tu es au club. Il y a eu cette petite révolution, en tout cas ce pas franchi grâce entre autres à l'arrivée de Christophe Furios et puis un groupe qui arrive à maturité. En tant que capitaine, comment tu vis cette petite révolution cette année? On rappelle que l'année dernière, vous terminiez premier de la phase régulière. Cette année, voilà, vous êtes sur cette belle dynamique. Comment tu la vis?
Eh bien, par rapport à tout ce que tu as dit en introduction, et je te remercie, mais je l'ai vécu avec beaucoup d'émotion, justement, par rapport au choix que j'ai fait. J'ai pris la parole après le match, quand on s'est retrouvés le lundi, pour dire au mec merci. Parce que par rapport au choix que j'avais fait, même le choix de rester à l'UBB quand on a joué le maintien et que j'ai commencé à être international, des choix qui n'ont des fois pas été compris par rapport au club qu'il y avait en face. Mon choix aussi d'arrêter l'équipe de France, ben ça pour moi c'est énorme et du coup j'ai pris avec beaucoup d'émotion. J'étais très ému après l'8e, encore plus après le quart et bon maintenant j'espère que ça va se poursuivre.
Raph, on a parlé l'arrivée de Christophe Furios a en tout cas de l'extérieur semble-t-il marqué un élément déclencheur dans la structuration encore plus notamment sur le secteur sportif de l'UBB. Est-ce que toi tu as le sentiment, est-ce que tu partages cette analyse et est-ce que tu peux nous dire réellement en quoi Christophe Furios a changé quelque chose de l'extérieur? On va employer des mots forts, on a l'impression que c'est un gourou ce Christophe Furios.
Ouais, il a une façon de travailler qui est très cadrée comme on le sait. Je pense qu'il nous a apporté en fait la base. On était un club qui a je pense qu'il aimait jouer au rugby, qu'il savait jouer au rugby, qu'il aimait juste l'aspect du jeu, se faire plaisir, on va dire, avec le rugby. Mais des fois, on oublie un peu la base, ce socle solide qui te permet de traverser l'hiver ou qui te permet des fois de gagner des matchs un peu difficiles, un peu au cordeau. Et du coup, je pense que Christophe a amené ça. Et en plus de ça, là où il est très bon, c'est qu'il n'a pas renié quand même ce qu'était le jeu de l'UBB. Et il s'est adapté à ce qu'on aime faire. Et du coup, je pense que tout le monde prend énormément de plaisir, mais tout le monde est capable aussi de se mettre au diapason pour le collectif.
Tu es au club depuis 10 ans maintenant. J'aimerais que tu nous racontes un peu comment le club se structure depuis une bonne dizaine d'années. Tu l'as vu progresser, tu l'as dit aussi, vous avez vécu des moments un peu compliqués. Moi, j'ai souvent comparé Bordeaux un peu à Grenoble, qui faisait des débuts de saison assez tonitruants. Et puis, comme tu dis, au passage de l'hiver, vous repassiez dans la seconde partie du tableau. Là, vous êtes bien installé dans la première partie. Même si on le rappelle, vous êtes cinquième avec 52 points et que la qualification dans les phases finales n'est pas encore actée. Mais voilà, il y a quand même une belle évolution. Un Chabon-Delmas qui est plein comme un œuf. Bon, pas aujourd'hui, c'est clair qu'il est vide. Bon, ça va pas revenir sur cette saison particulière, on le sait. Mais savoir comment toi, ton point de vue sur l'évolution de ton club, avec Marty aussi, qui met beaucoup de... Voilà, on le rappelle que les présidents de club mettent beaucoup de moyens. On va d'ailleurs tirer un grand coup de chapeau aussi à tous les sponsors aussi, parce que c'est aussi dur aussi pour eux dans cette année particulière. Mais bon, on sent vraiment un club qui a franchi un cap sur ces 10 dernières années. Comment tu le perçois?
Mais je le perçois, je trouve qu'on a eu une construction qui s'est faite assez vite sur mes 3-4 premières années où je suis arrivé. On a en 2016, non, 2015, on s'est qualifié pour la première fois en Champions Cup en allant gagner à Worcester contre Gloucester. Donc on a une première partie de construction là. Et puis après, c'est un peu stagné. On a eu beaucoup de turnover aussi sur les entraîneurs. Je pense qu'il y avait un problème de structuration et il fallait un homme, je pense, comme Christophe qui arrive avec un réel gros projet poser les bases de la suite. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Laurent Marty, du coup, a pris aussi un peu plus de recul, un peu plus de hauteur, ce qui lui permet de pouvoir travailler sur d'autres sphères du club, de le développer encore plus au niveau sponsor, partenaire. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, la formule, elle est bonne parce que et Christophe est arrivé avec un projet sportif dont lui seul a les clés. Et du coup, ça marche. On est tous derrière une seule personne.
Je reviens un peu, Jeff, sur le parcours en Coupe d'Europe. Vous allez affronter Toulouse en demi-finale, qui plus est à l'extérieur, sur la pelouse du stade toulousain. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir hérité du plus mauvais tirage en ce moment ou pas?
Mais là, au vu des équipes qui restaient sur les demi-finales, pour tout vous dire, c'était qu'on aille à La Rochelle, qu'on aille au Leinster ou qu'on aille à Toulouse ou même qu'on les reçoive en ce moment dans ce contexte particulier, il n'y a pas forcément de bon ou mauvais tirage. Maintenant, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on va y aller pour, Et voilà, avec beaucoup de courage, on n'a pas été favori depuis le début sur cette compétition. Donc il faut y aller avec beaucoup de courage, il faut y aller décomplexé. Et quoi qu'il arrive, on a fait quelque chose de beau. Mais maintenant, les matchs, il faut les jouer. Et puis voilà, il faut essayer d'aller au bout, quoi.
J'ai dit en top 14, vous êtes cinquième. On imagine que goûter une phase finale de championnat de France, ça doit commencer à titiller aussi un peu. On le rappelle que tu as aussi arrêté pour ça, pour te consacrer, de gagner des titres avec l'UBB. L'année dernière, comme je le disais tout à l'heure, vous étiez premier de la phase régulière avant l'arrivée du Covid. Il y en a un qui est juste derrière moi, tu vois.
Ouais,
voilà, juste
je
tu
le
vois.
Regarde, donc,
j'en ai deux autres qui prennent la poussière. Alors, pour les gens qui ne le voient pas, on est en podcast, mais je monte, j'ai un petit bouclier de Brennus qui est juste derrière moi et j'en ai deux cachés. J'aime bien, c'est mon côté un petit peu autodérision, parce que peut-être que tu ne le sais ou pas, mais j'ai jamais joué une finale de mon club. Donc voilà, j'aime bien le mettre en avant alors que j'ai jamais joué les finales. Voilà, mais je pense que
Pour
ça
tout te
fait.
dire, au tout début de ma carrière à Bordeaux, ben, la première année, on a repris les études et le premier livre que nous a donné l'intervenant aux études, c'est ton livre.
Ah.
Donc, j'ai lu ton livre quand j'avais 20 ans. Et donc,
Quand
du coup,
j'étais
je
Superman,
remets.
hein, je rappelle.
Voilà, quand j'étais Superman, et j'avais trouvé ça génial. Et je pense que tu m'as quand même inspiré dans certaines choses. Voilà, merci et bravo.
Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Sébastien qui est en off, j'aimerais que tu fasses une petite capsule vidéo juste de ce passage. Juste pour... Comme ça montrera, oui, Arnaud, que mon ego
Non,
peut
mais
s'enfler aussi un petit peu.
il n'empêche, et je sais que pour avoir lu ce livre, qu'effectivement, il devrait être donné à tous les gamins de 18-19
Ah oui.
ans qui sont aujourd'hui dans les centres de
Vraiment.
formation, parce que ce bouquin-là, c'est une tranche de vie qui n'a pas toujours été drôle. Raph, je parle sous ton contrôle. On parle des paillettes, du strass, des heures de gloire et tout ça, mais on a assez peu parlé des heures sombres que Raph a vécues à l'époque. Et effectivement, le rugby pro, il y a la face dorée, mais il y a aussi la face sombre, malheureusement. Raph peut en témoigner et je trouve très bien que Jeff évoque cet aspect-là.
Les gars, vous voulez qu'on fasse une émission de 3 heures ou quoi? On revient sur
l'idée, c'est de revenir sur justement, le top 14 et les phases finales.
Le top 14, les phases finales et justement ce bouclier qui fait rêver voilà, les 14 clubs et on va dire à peu près 1000 joueurs à chaque année qui veut atteindre cet objectif. Mais pour toi, une fois de plus, comme je le disais en introduction, ta volonté d'arrêter avec l'équipe de France, c'est pouvoir se consacrer à ton club, à ta vie de père aussi. J'ai deux gosses, donc je sais ce que c'est. C'est une boucherie, le bordel. C'est une boucherie. On se fait électrocuter chez Carnot et papa aussi. Mais voilà, revenons sur le top 14, cette volonté de gagner le bouclier. Oui, c'est un rêve de gosse et puis c'est un rêve de tout rugbyman professionnel. Ouais.
Ouais, c'est ça, c'est un rêve de gosse. C'est voilà, comme je te le disais pour le quart, le huitième européen, mais là, on n'y est pas encore en phase finale. On va devoir travailler dur. Mais voilà, par rapport à tous les choix que j'ai faits, pour le projet aussi UBB, voilà, je suis resté ici pour le projet UBB. Par rapport à tous les choix que j'ai faits, ben, il faut absolument que j'atteigne ces phases finales et qu'un jour, on puisse faire une visio et que moi aussi, je te dise, bon, Raph, il est derrière toi, regarde, mais derrière moi aussi.
Oh, je te le souhaite tellement, grave.
Mais alors, avant d'enchaîner justement sur la saison passée, Jeff, moi j'ai une réflexion là qu'on j'avais pas forcément prévu de te faire, mais on a le sentiment que toutes les décisions que tu as pu prendre aujourd'hui, finalement, les résultats aujourd'hui et le parcours de l'UBB te confortent dans tes choix. Je me trompe?
Ouais, c'est un peu ça, parce qu'au moment où je prends mes décisions, je suis tout seul à les prendre. Ça, je veux vraiment le rappeler, parce que en aucun cas, ni le président, ni Christophe, bien au contraire, qui avait été très surpris quand je lui avais dit, en plus très tôt, que je pensais arrêter ma carrière internationale, bah, en aucun cas, ils sont rentrés en compte là-dedans. Donc, ça a été pris comme peut-être s'échapper, mon choix, mais je me suis réellement mis, je pense, en danger. Et au contraire, voilà, je pense que ma décision, elle a été assez courageuse. Et j'avais envie de le faire parce que j'avais envie d'être à 100% dans mon projet qui était celui-là, celui du bébé, pour lequel j'étais resté depuis des années. J'aurais pu partir à Clermont, Toulon, des clubs qui jouaient chaque année les phases finales, qui n'avaient aucun doute sur là-dessus. Mais je suis resté et maintenant, je pensais qu'en étant capitaine, c'était le moment d'être là.
Justement, avant de revenir sur cette partie chez Kraft, ça lui tient à cœur parce que c'est un sujet qui, voilà, qui lui tient vraiment à cœur. L'an passé, vous êtes premier du top 14 sur toute la première moitié de saison quasiment. Et puis, il y a ce foutu Covid qui intervient, qui vous fusille en plein vol avec le recul. Comment tu l'as vécu, Jeff?
Mais honnêtement, on l'a très mal vécu parce que. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, étant donné justement qu'on était premier, qu'on était dans notre dynamique et voilà, qu'on était sur notre lancée toutes les semaines avec Christophe, qui est quelqu'un qui contrôle beaucoup. On avait un Zoom, on avait notre programme physique, donc on a continué à s'entraîner en nous disant, la semaine prochaine, on va revenir ensemble et on va reprendre le championnat. Et en fait, ça, jusqu'au 11 mai, je crois que c'est le 11 mai, qu'il y a eu
Ah.
l'allocution du Premier ministre qui dit, les saisons sportives de rugby et de football 2019-2020 sont terminées. Et alors là, on a pris une chape de plomb sur la tête. Et là, franchement, j'ai cru que j'avais l'impression d'avoir pris 10 ans de fatigue. Après, c'était horrible. Et parce que nous, on était auto-persuadés que ça allait reprendre. Enfin, voilà, on s'était vraiment mis dans une autre bulle et on était persuadés de ça, quoi. Donc, on l'a finalement, après le 11 mai, on l'a plutôt mal vécu. Mais bon, je pense qu'on l'a vu sur le début de saison, qu'on a eu un peu de mal à le digérer. Et ensuite, on l'a évacué, puis on est reparti sur ce qui a fait notre force, donc je pense le travail au quotidien, et puis on est reparti jusqu'à être là, à être dans les qualifiables, mais il reste encore quelques coups de cravache à mettre.
C'est vrai qu'on avait reçu Christophe Furios justement au début du confinement l'année dernière et qui nous avait bien expliqué que oui, il y avait un groupe WhatsApp et qu'il était vraiment, vraiment en
Ouais.
relation avec ses joueurs. Mais c'est vrai qu'il a ce côté, voilà, au-delà de cette bonhomie physique, voilà, le côté un peu paternaliste aussi dont les joueurs ont aussi besoin. On a besoin d'avoir
Oui.
des référents et puis de garder le cap aussi dans des moments où on est seul chez soi, comme tu vois, comme tu le dis, avec l'arrivée d'un enfant. Voilà,
Ouais.
toutes les cartes sont redistribuées. Et puis, il y a une espèce de no man's land, en fait, où à quoi on s'accroche, il n'y a plus la compétition, il n'y a plus le quotidien. Donc, ça devait être vraiment compliqué. J'aimerais qu'on parle vraiment de cette décision que tu as prise, que je trouve tout à fait honorable. Et je l'ai dit dans le portrait, je le pense vraiment. On a besoin d'avoir des exemples aussi, autres que carrière, carrière, carrière. Voilà. Et là, il y a des décisions comme celle-là qui peuvent surprendre, mais quand elles sont assumées, et puis voilà, le projet d'être papa, le projet de l'UBB, on l'a dit. Est-ce que le confinement a appuyé ta décision ou il était pris, ta décision était déjà en train de mûrir quelque temps avant l'arrivée du confinement?
Alors, ma décision, pour tout vous dire, elle a commencé à mûrir vraiment à la fin de la Coupe du Monde. Parce qu'à la fin de la Coupe du Monde, alors, pour vraiment expliquer le contexte, donc je suis parti à la Coupe du Monde, mon fils avait 2 ans et ma fille avait 4 mois. Et en fait, quand je suis rentré de la Coupe du Monde, ma fille avait 8 mois. Et en fait, je me suis dit, bah, sur la vie de ta fille, tu as loupé quand même la moitié de sa vie. Sur les 8 mois, tu en as loupé 4, tu as loupé la moitié de sa vie. Donc ça m'a mis un petit coup. Et la deuxième question que je me suis posée, c'est est-ce que je suis prêt à refaire 4 ans comme ça, partir, revenir, le club, être là entre 10 et 15 matchs, ou ouais, 17 matchs? Est-ce que je suis prêt à refaire ça? Est-ce que je suis prêt à m'engager à 100% dans le projet France? Et j'avais un doute. J'avais un doute. Bon, je me suis dit, bon, on va laisser. J'en avais parlé avec mes proches. J'ai dit, mais on va laisser quand même le tournoi et puis on verra. Et puis après, je suis arrivé au tournoi et je sentais bien que je n'étais pas à 100%. Je sentais bien que je n'étais pas à fond, que je n'étais pas. Et donc enfin, même pendant le tournoi, j'ai pris la décision d'arrêter. Donc là, à ce moment-là, j'ai même annoncé au coach ici, à Bordeaux, j'ai dit, bon, mais j'arrête, voilà, je ne suis plus à 100% dans le projet, je veux mentir à personne, donc j'arrête. Donc il y avait tout l'aspect familial, tout l'aspect club, mais aussi l'aspect après-carrière, reconversion. Enfin voilà, aujourd'hui, j'ai repris des études dans l'immobilier. En parallèle, j'ai racheté une société aussi. Donc, ça m'a permis de faire énormément de choses que j'avais pas le temps de mettre en place parce que j'étais pas là 5 mois de l'année. Donc, en fait, c'est un peu le mélange de tout ça qui a fait que, et c'est pas forcément un désamour comme j'ai pu l'entendre de l'équipe de France, parce que l'équipe de France, bien au contraire, honnêtement, je m'y suis toujours arraché pour ce maillot. J'adore toujours ce maillot. J'ai toujours la même émotion quand je les vois gagner. Enfin voilà, ça n'a pas changé. Par contre, je trouve que quand on n'y va pas à 100%, il ne faut pas y aller. Voilà, on n'a pas le droit de. Parce que c'est des millions de Français aussi qui sont derrière nous quand on est en équipe de France. Donc si c'est pour mentir à des millions de Français, ce n'est pas la peine. Sur le plan sportif, je n'avais pas de doute, mais sur le plan de ma motivation personnelle profonde, j'avais des doutes quand même. Et du coup.
Est-ce qu'il n'y avait pas une fatigue aussi de part aussi des résultats? Parce que tu as connu aussi une équipe de France au sortir de la Coupe du Monde 2015. Tu as fait 4 ans, tu as 30, voilà, tu as à peu près 30,
36
30,
sélections, je crois.
36
36,
sélections.
ouais.
36, ouais. Dont un ratio de 99% titulaire, on va dire. Ouais. Non, non, mais oui. Et derrière, avec des résultats aussi en dents de scie de l'équipe de France, on le sait, on en a beaucoup parlé d'ailleurs dans Poulain.
Avec Guilhem Guirado, on en a beaucoup parlé.
Alors. Cette capacité de me tirer une balle dans le pied, donc non, dans Poulain, Rafut et pas Poulain la flûte, mais ces 10 dernières années, c'est vrai qu'il y a toute une génération aussi qui a subi aussi, on a parlé aussi de ces guerres intestines entre la Ligue, la Fédé, les calendriers intensifs que tu connais, toi, depuis 10 ans maintenant. Et puis, les résultats en Dancy, qui étaient plus négatifs que positifs sur ces 4 dernières années. Le changement aussi d'entraîneur au milieu, avec Guinoves et derrière Guinoves. Donc, c'est... Ça peut aussi poser. C'est un contexte aussi.
Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a le contexte. Peut-être que si j'avais fait 4 ans avant ça, miraculeux, peut-être que j'aurais été porté par le truc, que j'aurais été peut-être un peu moins usé et que je me serais pas dit oh, est-ce que tu es prêt à refaire 4 ans, à refaire ces sacrifices, peut-être. Mais moi, mon contexte, c'est celui-là, tu vois. Donc, je peux pas le changer. Et du coup, j'étais arrivé à ce point-là. C'est pas un autre contexte. Donc, c'est pour ça que c'est difficile pour moi de me projeter. Et même dans mes proches, il y a des proches qui m'ont dit, mais c'est pas possible. En plus, ça va être génial là. Regarde le tournoi 2020, il s'est bien passé. Ouais, OK, mais c'est pas le contexte. Le contexte, il est ce qu'il est. Moi, c'est aujourd'hui, c'est ce que moi, je ressens. Est-ce que moi, je pense être bon pour moi, pour ma famille, pour demain aussi, parce que sportivement, comme je te dis, je n'avais pas de doute sur le fait d'y être en équipe de France jusqu'en 2023. Mais après, j'avais un gros doute sur le fait de continuer ma carrière au-delà de 2023, par contre. Je m'étais dit, à mon avis, si tu refais 4 ans, ça va être compliqué de continuer derrière. Pas forcément physiquement, mais mentalement, ça va être compliqué. Et là, j'ai trouvé un équilibre qui me permet de remettre aussi le rugby à l'endroit où il doit être. Tu vois, c'est redevenu. Je l'ai remis au niveau de passion aussi, tu vois. Et je pense que dans mon jeu, je joue différemment aussi parce que c'est remis au niveau de passion.
Quand je dis que c'est exemplaire, je vais vraiment, vraiment peser mes mots, c'est que on se dit que voilà, on fait carrière de 20 à 35 ans et que la machine est lancée. Et en fait, on a l'impression qu'on ne se pose pas de questions. On a le déni d'un corps aussi qui peut lâcher aussi. On a envie de revenir le plus rapidement possible. Mais il y a un moment où moi, je trouve que c'est une décision d'un homme, je dirais, bien fait, d'un homme mature, dans le sens où qu'est-ce qui est bon pour moi, en fait, à un moment. Qu'est-ce qui est bon pour moi et pas que pour le groupe. Parce qu'on a tendance, quand on est dans un groupe, à tout mettre pour le groupe et à s'oublier en tant qu'homme, en tant que père de famille, en tant que mari, en tant que même dans sa vie professionnelle, la volonté aussi de pouvoir se projeter, parce qu'on sait que c'est un métier quand même qui est un métier à risque où tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et j'en suis l'exemple type. J'ai arrêté à 25 ans alors que tout le monde pensait que j'allais faire carrière. Mais je trouve que c'est une décision vraiment mature, en plus d'avoir le courage de le mettre en mots et de l'expliquer aux gens. Après, il y aura toujours les jugements, bien entendu, mais
oui, bien sûr.
D'assumer, de dire, voilà, j'ai fait des choix, ma vie professionnelle, ma vie affective, ma vie de père. Moi, je trouve ça génial. Voilà.
Justement, Jeff, moi, je voudrais rebondir parce que tu as beaucoup avancé l'argument familial et qui s'entend, évidemment. Hein. Mais tu avais aussi évoqué, justement, ces cadences infernales. Mourad de Toulon l'a évoqué il y a peu, Mourad Boudjelal expliquait que, finalement, la matière première, les joueurs, n'avait que finalement peu de poids dans les prises de décision, qu'il y avait voilà, les organes, il y avait les présidents de club, mais que les joueurs, finalement, on ne les entendait pas. Et peu de temps avant toi, il y a Sébastien Vahamaina qui a expliqué quasiment les mêmes arguments pour justifier son arrêt de carrière internationale. Est-ce que tu as le sentiment que vous, les joueurs professionnels, aujourd'hui, vous êtes parfois considérés comme de la chair à canon?
Mais oui, forcément. Alors après, je ne veux pas lancer de polémique parce qu'il faut aussi qu'on soit au 100% honnête. On est content de nos situations, on est content d'avoir nos salaires, on est content d'avoir notre qualité de vie. Donc, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Mais c'est sûr qu'il y a par moments, et notamment, mais là, quand il y a eu ce problème de Covid et que pendant 6 mois, tu joues et que tu tires la sonnette d'alarme et que moi, j'ai un pote comme Mamadou Diaby qui... Mais il ne s'économise pas, qui se fait un tendon d'Achille, qui est une blessure plutôt grave. Enfin voilà, c'est sûr que là-dedans, nous, on avait tiré la sonnette d'alarme bien plus tôt et personne ne nous a forcément écoutés. Mais après, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas cracher la soupe parce qu'on est aussi, aussi content de notre qualité de vie.
Je pense que tu parles de cracher dans la soupe, mais c'est vrai que c'est toujours cet argument. Et je vais faire d'ailleurs le parallèle avec le mec, comme je l'ai fait la semaine dernière, le mec qui marque trois essais, qui fait trois exploits sur un terrain et qui dira toujours « c'est grâce à l'équipe ». Tu vois, on se cache toujours derrière l'équipe, comme là aussi de dire « ouais, non, c'est pas de cracher dans la soupe, en fait, il y a un moment de poser une réalité, en fait. Après, on a toujours un peu la peur d'être jugé, c'est tout à fait normal parce que la situation est bonne, parce que vous avez des bons salaires, sauf qu'on se rend pas compte, justement, de la cadence. Et en mettant les pieds dans le plat, justement, en parlant comme tu en as parlé, de par les choix que tu fais, et surtout sur l'après-carrière, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu, aussi de tes projets professionnels, parce qu'on se doit aussi, en tant qu'ancien et en tant que néo-ancien, ou en tant que joueur et capitaine, de montrer aussi l'exemple. Voilà, ce sont des sujets qu'il faut mettre sur la table sans tir à vue, sans dire que c'est de la faute de la Ligue, sans dire que c'est de la faute des présidents, sans dire c'est de la faute de personne, le système il est comme ça. Mais il y a un moment où c'est de dire « Oh, aujourd'hui, moi je suis capitaine de l'UBB, je m'appelle Jefferson Poirot, et oui, je considère qu'on a une cadence qui est infernale et qu'il y a un moment il faut aussi prendre la parole au nom de ceux qui n'osent pas la prendre parce que c'est un sujet de fond, en fait, et il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui le pensent, mais qui ont du mal aussi à le mettre en mots par peur d'être jugé. » Et je regardais, je vais faire un parallèle avec Pascal Papé, qui a fait un truc sur Slash, sur France Télé. J'ai vu un truc hier tourner sur les réseaux sociaux, que je trouve absolument génial, où Pascal Papé, il dit « on est grand, on est fort, on est invulnérable, on ne parle pas de dépression, on ne parle pas des sujets un petit peu tabous. » Ce n'est pas de se plaindre, en fait, que de parler de dépression, que de parler de cadence, tout ça. Il y a un moment où vous êtes acteurs principaux sur le terrain, vous devez d'être écoutés. Et ici, c'est pour ça que j'aime donner la parole, justement, à des joueurs qui ont du bulbe et qui ont… voilà, qui a un peu de recul sur la situation. C'est pas de se plaindre, c'est juste de dire aujourd'hui, oui, on joue beaucoup et on aimerait être écouté parce que c'est à la fois une fatigue physique et psychologique, parce que ta décision, ça peut être aussi une fatigue psychologique d'enchaîner les matchs. Et une fois de plus, c'est Benjamin Kaiser qui le disait, on n'a pas le temps d'acter et de, non pas de faire la fête, mais de profiter d'une victoire qu'il faut déjà penser au match d'après. Donc, il n'y a pas ce moment où juste on fait pause et juste de dire oui, les cadences sont terribles. Bref, j'ai fini mon monologue. J'aimerais que tu nous parles deux secondes un peu de tes projets professionnels avant qu'on passe à la suite, juste que tu nous parles un petit peu de ce que tu as mis en place justement pour la suite, alors que tu es au milieu de ta carrière.
Du coup, ça faisait partie aussi des choses que j'avais envie de faire. J'avais envie de sortir de ce côté un peu uniquement joueur de rugby. Voilà, j'en avais un peu marre de par ma vie au quotidien, de par quand j'étais avec des personnes qui n'étaient pas forcément issues du rugby, de ne pas pouvoir parler d'autre chose que du rugby. Et du coup, avec un de mes meilleurs amis, j'ai eu l'opportunité de racheter une société à Bordeaux, une des plus vieilles entités bordelaises qui vend des photocopieurs. Alors, c'est un peu particulier. Moi, j'ai une formation commerciale à la base plutôt classique, une licence commerce et marketing.
Mais tu peux dire que depuis tout petit, tu es passionné par les photocopieurs. Hein.
Je vais te dire honnêtement, le photocopieur, je pense que ça n'intéresse pas grand monde. Mais c'est quand même un outil qui est indispensable à toute société et du coup, qui ne connaît pas forcément la crise. Donc, du coup, on a eu cette opportunité de racheter. Lui était dans ce milieu, donc ça permettait pour lui de passer associé à 50%. Parce que lui, il était associé minoritaire chez Xerox. Et moi, ça me permettait, pareil, à 50%, de devenir associé, de à son contact, continuer à apprendre le métier, pouvoir me retrouver sur le terrain, en clientèle, avec du monde, pouvoir aussi bénéficier du réseau peut-être que je peux avoir grâce au rugby. Donc il y avait un projet qui était très intéressant pour moi. En plus de ça, on gardait l'ancien propriétaire qui a 52 ans, qui est plein d'expérience, donc qui peut continuer aussi à m'apprendre. On a une alchimie qui est très bonne autour de ça. Et du coup, pour moi, c'était un projet qui était top parce qu'il était confortable. Ça me permet de pouvoir un jour par semaine aller y travailler. Ça me permet de pouvoir continuer à apprendre. Ça me permet de pouvoir mettre un premier pied dans ce qui est l'après-carrière et, entre guillemets, ce monde réel qu'on a tendance à oublier parfois quand on est joueur de rugby et d'avoir des problématiques juste du monde d'aujourd'hui. Parce que, bon, ça, c'est pareil, je l'ai expliqué, mais je pense que quand on est rugbyman, on est assisté pendant 10, 15 ans, on nous fait nos impôts, on nous fait à bouffer le midi, on nous fait à bouffer le matin, enfin voilà, tout nous est fait pour qu'on soit dans un confort et qu'on oublie juste qu'il y a une vie à côté et qu'on pense juste au rugby. Mais je pense que si on n'anticipe pas de revenir un peu dans la vie réelle avant la fin de carrière, l'atterrissage, il peut être difficile. Et ça, j'en avais quand même vraiment conscience et j'avais envie de... voilà, j'avais envie de revenir dans ce monde réel et du coup j'y suis revenu de cette manière et aussi en reprenant un peu mes études là. Donc là je finis mon année de licence dans la licence immobilière parce que ça c'est, je suis passionné de ça, j'aimerais en faire mon métier aussi après. Donc voilà, j'ai entrepris un peu tout ça. Voilà.
Écoute, dis-nous si on se trompe, mais il y a aucun regret. Après quasiment un an avoir annoncé cette décision, il n'y a aucun regret à avoir pris justement, avoir fait ce choix.
Et non, c'est là où vraiment il n'y a aucun regret, je l'ai dit plusieurs fois, mais je suis très content de ce que fait l'équipe de France. Honnêtement, je suis content aussi parce que pour le club, honnêtement, Mathieu Jalibert, Cameron Nwoki, même Cyril Cazot qui a peut-être un peu moins joué que les autres, mais c'est des joueurs qui ont pris une ampleur terrible grâce à l'équipe de France. Et qui aujourd'hui font que ben voilà, il y avait cinq clubs français en quart de finale de Coupe d'Europe. Mais après moi, j'ai tellement de choses qui se sont construites dans ma vie à côté que j'avais envie de faire, que j'avais vraiment envie de faire, qui m'ont aussi permis, ben comme je l'ai dit, de remettre le rugby à sa place de passion et pas à une place de métier, pas une place de ressources. J'ai pas de regrets.
La voix est bonne quand même. Hein. Et je pense que les gens ne le savent pas, mais Jefferson Poirot aujourd'hui est à 40 degrés Celsius au niveau du corps. Tu vois.
Je transpire. Non, mais...
Il transpire, mais alors tu vois, j'allais te poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens mieux physiquement et mieux mentalement en n'ayant qu'à penser à ton club et à ces projets-là? Pas aujourd'hui, à l'instant T, mais globalement, on sent quand même, une fois de plus, une sorte d'épanouissement et un plaisir qu'on entend aussi rarement dans la voix aussi des joueurs qu'on peut recevoir jusqu'à maintenant, qui sont justement dans cette matrice, qui n'ont peut-être pas encore pris ce recul.
Ouais, ben en tout cas, tu vois, là, d'en parler, ça va mieux, le Covid, il s'en va un peu, donc,
Raphaël, donc c'est que ça doit être un bon effet. Poulain Rafut, c'est très thérapeutique et ça fait beaucoup de bien au moral. Là, ça. Je pense que c'est important.
Bon, allez, une note un peu plus légère, Jeff, une question un peu piège. Attention, concentre-toi. Vas-y. Bien. On a envie de savoir, avec Raph, quand on a préparé l'émission, on s'est dit, mais comment on fait quand on est capitaine d'un club et qu'on doit gérer un garçon comme Nance Ducoing qui enchaîne. Alors, j'ai écrit les facéties, mais on peut dire qu'il enchaîne connerie sur connerie. Est-ce que c'est facile à gérer ou est-ce que quand on arrive le matin, on craint le pire?
Alors, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Voilà. Non, c'est un mec, on ne sait jamais ce qu'il va faire. On sait toujours qu'il a une connerie à la minute. Quand il vient te parler, tu te méfies toujours un peu parce que bon, voilà, c'est Nance Ducoing. Alors après, pour investir, c'est un bonheur, mais pour certains mecs dans le vestiaire, c'est dur. Parce que c'est un mec qui est capable de te faire une chanson, comme vous avez pu l'entendre sur Clément Ménadier, qui te fait une chanson. Mais là, il a sorti une chanson contre son fait. Alors, Nance, tu l'écoutes, c'est toujours contre son fait. Il ne sait pas comment c'est sorti, mais ça sort toujours. Sur Christophe, alors qu'on est en pleine tempête là, on est en pleine tempête en ce moment. Enfin, c'est jamais le bon timing. Donc, pour le gérer, on essaye de l'encadrer, de lui mettre des barrières. Et puis, à quelques moments, comme ça nous est arrivé au tout début où il est arrivé, il faut le punir. Donc, je vais te raconter une petite anecdote. Quand il est arrivé la première année, il faisait de tout au gros. Et de tout, un truc de fou. Franchement, je pourrais, mais tout, les pompes, tout y passait, il faisait vraiment de tout. Et donc, à la fin de l'année, on réfléchissait avec les mecs, ouais, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire du coin et tout. Bon, t'as des mecs qui commencent à me dire, ouais, on le fout à poil, on le ligote dans un caddie, on le balance en plein milieu de Rive d'Arcin, ça lui fera les pieds et compagnie. Bon, là, je me dis, bon, les mecs, ils sont complètement barjots, on va peut-être se calmer. Et vient une idée. On se dit, bon, bah, on va acheter 200 œufs. Voilà, on va acheter 200 œufs, de la farine. On va l'attacher à une chaise et on va lui faire passer une heure et demie sympa. Et du coup, on l'a attaché à une chaise au centre d'entraînement et on lui a balancé 200 œufs à la gueule et on l'a rempli de farine. Bon, et malgré ça, ben, il n'a rien arrêté. Il n'a rien arrêté, malgré ça.
Les œufs, c'est comme des pièces, en fait. Vous lui avez mis des pièces, la machine était lancée.
Ah, mais là, mais c'est horrible. Ce mec, il est horrible. Par contre, on a vu qu'il avait une limite parce que à la fin, on a voulu l'emmener en plein centre de Bègles et il nous a dit, les gars, je vous garantis que si vous faites ça, je porte plainte contre vous. À la fin, il était fou. Donc, on a toujours... Autant te dire qu'on n'a toujours pas trouvé la solution, mais que quand même, dans cette période où on manque de public, où on manque de lien avec l'extérieur... Il nous fait du bien quand même. Donc là, cette année, on le laisse tranquille.
Rassure-nous, les œufs, c'était sans élan quand même.
On est des avants, on n'est pas. Ouais. Tu sais, nous, plus ça fait mal, plus on est content.
Oh, le pauvre, le pauvre.
Mais comment l'avait pris, voilà. Christophe Furios, d'ailleurs, cette chanson d'ailleurs qui est sortie là, c'est, je me rappelle, la chanson c'est Panique à Bordeaux.
C'est ça.
Ouais.
Mais puis... écoute, je vais te dire, en fait, cette chanson, on l'a chantée après le quart. Elle avait été faite depuis un petit moment avant. Et donc, avant le 8e, on a pris une belle dérouillée contre La Rochelle. On est passé vraiment à côté, on s'est fait écraser. Et Christophe, il était vraiment pas content la semaine d'après. Donc, autant te dire que c'était pas trop le moment de sortir ce genre de musique. Et en fait, il a donc cette chanson avait été créée d'avant et il voulait la chanter après La Rochelle. Donc, il s'est dit, bon, on va attendre un peu et on l'a chantée après le quart. Et donc, Christophe, bon, il a un peu froncé les sourcils, il s'est demandé un peu d'où ça venait, il a mené son enquête, à savoir, parce qu'on a été interdit de musique pendant 3 semaines, donc à savoir si on avait créé ça pendant qu'on était interdit de musique et, comme il dit, de bouffonnerie, tu vois. Et donc, ça a été créé avant, donc heureusement, il a dit, bon, finalement, j'aime bien. Voilà, finalement, j'aime bien.
Raph, j'imagine que ce genre d'anecdote, ce genre de propos, voilà, ça correspond au rugby que tu as aimé, aux valeurs que tu aimes voir se développer au sein des clubs, non ?
Et tu vois, je rigolais avec le bouclier qu'il y a derrière, mais tu ne peux pas construire en fait une vie de groupe et une vie d'équipe si tu ne penses qu'à travers le rugby, sur le côté stratégico-technico-tactique, si tu n'as pas des bouffons dans la bande. Alors moi, vu que j'étais moins titulaire sur les deux premières mi-temps, j'étais titulaire dans la bouffonnerie sur la troisième. Donc, il faut toujours un bouffon dans la bande. Le grand problème au Stade français, c'est qu'à l'époque, alors je vous parle d'une période que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais au-delà de ça, tu avais 10 bouffons dans la bande. Tu avais Rémi Martin, tu avais Greg Mahé. Greg Mahé, c'était un débile fini. Donc, il y avait moi au milieu du bordel. Tu avais Christophe Dominici aussi qui, on perd, je ne sais plus quel match. En fait, on se retrouve dans un bar, on est aux portes des play-downs, on est en 2000. Et puis, plutôt que dire, putain, les gars, va falloir se reconcentrer demain matin à l'entraînement, et ben, on s'est tous enfermés dans un bar, on a fait la bringue jusqu'à 7h du mat, on a été champion de France en autogestion. C'est comme ça que tu écris l'histoire. D'ailleurs, c'est ce bouclier-là. C'est comme ça, en fait, que tu écris l'histoire. Tu ne l'écris pas qu'avec... Il faut énormément d'ingrédients et ce côté bouffon. Et c'est là où Christophe Furios m'avait repris quand je lui ai parlé de Nantes du Point, en lui parlant du côté bouffon. Mais pour moi, le bouffon, c'est comme le côté connard. Il en faut un, le côté connard. Il en faut des bouffons dans la bande. Et ça, pas du tout péjoratif sorti de ma bouche, sachant que j'en étais un. Et en parlant de Nantes du Point, il s'était pas vexé, mais il a dit non, attention, c'est pas un bouffon. Si, c'est le bouffon de la bande. Et c'est ça qui est génial, parce qu'en plus, il est bon sur le terrain et il est bon à côté. Il faut des soupapes. Il faut des mecs qui fassent marrer le groupe. Et puis, c'est l'allégorie de quand j'ai fait le témoignage sur Dominici, quand Domi est parti au mois de décembre, au mois de novembre, j'ai dit, un bus de rugbyman, c'est comme dans la vie. Au début, tu as les managers, tu as l'intendant derrière qui te lave le short et sans qui tu joueras à poil. Tu as les introvertis, c'est les pilars, les deuxièmes lignes qui ouvrent pas leur gueule, mais qui mettent la tête là où tu mettrais pas les mains. Et plus tu avances vers le fond du bus, plus tu as les bouffons. Mais j'imagine bien que Nantes du Coin, il n'est pas à côté de l'intendant devant du bus. Il est au fond du bus à faire le con, tout comme moi, tout comme Domi, tout comme Jérôme Fial. Non, Jérôme Fial, il était spectateur. Il était toujours à se marrer comme un con. Il était entre le milieu et le fond. Mais des histoires comme ça, on en a tous. Et heureusement qu'il y en a. Et c'est pour ça que le parallèle entre... C'est peut-être le seul parallèle qu'on peut faire entre le monde professionnel et le monde amateur. Si tu n'as pas de bouffon dans le monde amateur, tu ne vis pas une aventure humaine comme ça. Et si tu n'as pas de bouffon dans le monde professionnel, tu te fais chier. Je souhaite à tout le monde d'avoir des Nantes du Coin dans leur groupe. Parce que c'est ça qui donne une saveur particulière à notre sport qui est certes changeant. Et moi, ce qui m'emmerde d'ailleurs, pour conclure, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que Nantes du Coin est une exception. Mais ce n'est pas une exception, ouais. c'est la norme. Alors oui, il prend la parole sur les réseaux sociaux, et il est bon. Mais dans tout groupe de rugby, tu as obligatoirement 1, 2, 3 bouffons. Pourquoi on a gagné des titres? Et pour conclure, c'est parce qu'on avait beaucoup de bouffons. Et par contre, le moment où il fallait mettre le nez dedans, il n'y avait pas beaucoup qui s'échappaient. Il y en avait rarement. Voilà.
Là, juste pour conclure, Jeff, un mot justement sur cette fin de saison en top 14, notamment parce que la Champions Cup, on le sait maintenant, ça va jouer contre le Stade Toulousain en demi-finale. Est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui tous les ingrédients sont réunis pour l'UBB pour enfin goûter à ces phases finales et performer sur ces derniers instants?
Ouais, j'ai l'impression. Après, surtout. Ce qui me fait dire ça, c'est justement cette claque qu'on a prise contre La Rochelle qui, je pense, va nous permettre de se dire attention, parce qu'on a un calendrier qui est peut-être plus accessible que certaines équipes, mais ça revient fort derrière et il ne faudra pas se tromper. Et je pense que quand on va recevoir des Castres, des Montpellier, qu'on va devoir se déplacer à Bayonne, se déplacer à Toulon, recevoir le Stade Toulousain, on n'aura pas le droit à l'erreur. Et je pense que c'est peut-être pas plus mal qu'on ait pris une bonne claque fin mars dans la gueule. Parce que depuis, on a aussi changé d'attitude et c'est ce qui, je pense, nous a permis de passer ce huitième et ce quart. Donc, ouais, je pense que tous les ingrédients sont réunis, mais il va falloir une grosse, grosse dose de travail, pardon.
Et c'est, je pense, pour conclure aussi, c'est aussi dans l'échec qu'on arrive aussi à se construire. Parce que si tu es dans une espèce de montée comme ça, voilà, si tu n'as pas un moment d'échec qui te fait redescendre un peu. Et à... Donc La Rochelle, comme tu le dis, a été un moment quand même essentiel en fait dans votre saison. Ouais.
Je pense, ouais. Je pense que aussi dans toute saison d'équipe, La Rochelle, par exemple, ils viennent chez nous, ils sont sur deux défaites consécutives. Ils nous écrasent complètement et depuis, ils marchent sur l'eau. Voilà, c'est aussi un peu ça, une saison. Donc, on l'a pris, cette bonne tarte, on va s'en souvenir et puis il va falloir y retourner maintenant.
Alors, à choisir, et ça c'est une question conne, mais comme dans Poulain Rafut, il y a toujours une question conne. Je la prends pour moi celle-là, Arnaud, parce que d'habitude c'est Arnaud qui les met sur papier, mais celle-ci, je la prends pour moi.
Là, elle
Je
n'est
rigole.
pas écrite. Elle n'est pas écrite.
Non. La question un peu dure, dure, à choisir entre un titre de Coupe d'Europe, un bouclier ou le retour du public dans les stades.
Ah.
L'enfoiré,
Noir.
l'enfoiré. Donc là, si
Ah
tu ne
ouais.
penses pas à tes supporters, et que tu
Oh là
me dis.
là. Tu me
Ben on
fous
va
dans la
enlever tous les
merde.
supporters parce que de toute façon, viscéralement et surtout à Chaban, je pense qu'ils manquent. Donc je vais les enlever parce qu'ils sont essentiels et ça fait chier de ne pas avoir les supporters autour de vous, j'imagine. Mais entre la Coupe d'Europe, parce que c'est exceptionnel, et
Ouais.
aussi ce à choisir, ouais, je sais, elle est dure
Et
celle-là.
t'imagines que mon dernier titre, c'est le titre de Krabos. Champion de France Krabos. Alors, tu me parles de trucs. Tu me parles. Là, ça pétille ici quand tu me parles de la Coupe d'Europe. Ça pétille ici quand tu me parles du top 14. Putain, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai jamais touché un bout de bois depuis 10 ans. Et la Coupe d'Europe en premier et le top 14 en deuxième, vu que la finale de Coupe d'Europe, ça
Voilà de l'ambition. Le
va.
mec arrive en te disant j'arrête l'équipe de France, je vous emmerde et en plus je vais gagner les deux titres. Et bien voilà de l'ambition. Non, je rigole, je rigole. Non, mais
Bon,
en
moi,
tout
en
cas.
tout cas, j'aimerais pas être le club qui jouera l'UBB en phase finale parce que mon petit doigt me dit que la frustration née de la saison dernière va tôt ou tard ressurgir et que l'UBB sera certainement pas très bonne à prendre sur un match couperet. On l'a vu, le Racing qui était grandissime favori sur ce quart de finale de Champions Cup est passé à la trappe dans un match qu'on évitera de commenter en tout cas sur le plan du jeu, parce que je peux vous cacher qu'on a passé des grands moments de solitude à regarder ce match-là, mais bon, pour l'UBB, c'était quand même ça restera un grand moment, j'imagine, pas sur le plan du jeu, j'imagine aussi. Mais voilà, juste un mot pour conclure sur ces 45 minutes qu'on vient de passer avec Jefferson. Attention à l'UBB et un petit mot sur la personnalité de Jefferson avant que Raph conclue. Je crois que son discours, son propos est on ne peut plus sensé. Et je crois qu'on devrait peut-être prêter un peu plus attention à ce genre de propos parce que des Vahamahina, des poireaux à l'avenir, malheureusement, je crains qu'on en ait davantage parce qu'à force de trop tirer sur la couenne des mecs, eh ben, ça finit par casser et psychologiquement, j'imagine que c'est très difficile. Voilà, c'était mon petit mot de conclusion. Je te laisse la parole, Raph.
Ouais, merci Arnaud. Écoute, moi je vais justement laisser la parole à Jefferson parce qu'on a parlé de l'homme, mais moi le joueur en fait, parce que j'ai toujours été admiratif de Sylvain Marconnet qui parlait dans la bouche de ses piliers. On ne sait pas ce qui se passe dans cette putain de mêlée. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Je ne te demande pas parce qu'on sait que tout ce qui est dans le rugby reste dans le rugby et de raconter une anecdote graveleuse parce que ça peut l'être justement à l'intérieur hein, sur l'aspect psychologique de prendre l'ascendant sur l'autre en lui parlant de sa famille, peut-être parfois, je ne sais pas, mais le mec en face de toi, non pas qu'il t'a fait échapper, parce que je pense que tu t'es jamais échappé, d'ailleurs, je connais rarement un joueur qui s'est échappé, mais à la mêlée, le mec qui t'a, à qui, avec qui t'as plus, vous êtes plus parlé dans la bouche, ce serait qui?
Ouais, franchement, j'ai aucun doute là-dessus. C'est Kyle Sinclair. Parce que Kyle Sinclair, pour tout te dire, donc il a un an de moins que moi, mais il était toujours surclassé en jeune avec les Anglais. Donc depuis moins de 18 ans, je le joue. Et ça doit être le pilier droit au monde que j'ai le plus joué. Donc je l'ai joué tous les ans, tous les ans, tous les ans. Là, je l'ai joué 2 fois cette année avec Bristol. Et on fait que se parler sur le terrain. Mais par contre, en dehors du terrain, on s'adore. Et en fait, il nous comparait jeunes, c'était drôle. Et puis, on fait que se chambrer sur le terrain, on fait que parler. Le match, la demi là-bas à Bristol, il me disait, t'as peur? Mais t'as peur? Et je lui disais, il me disait, tu veux pas jouer au rugby? Et je lui rigolais au nez comme ça. Et après, on se faisait de tout et tout. Et à la fin, on rigolait. Et là, pareil pour le huitième. Donc, bon, sans aucune hésitation, c'est Kyle Sinclair où on se parle dans la bouche le plus.
Donc, en plus d'être un bon père, un bon joueur de rugby, tu parles très bien anglais, j'imagine. Hein?
Oui, ben pour les conneries, tu sais,
Ouais,
ouais,
ouais.
ça
C'est universel. Oh, Jefferson, franchement, je ne regrette pas du tout de ne pas t'avoir eu la première fois parce que je pense que ça n'aurait pas été aussi consistant et aussi mature. Donc, je suis ravi de t'avoir eu aujourd'hui. Je pense que Arnaud, moi et toute l'équipe de Poulain Raffut, on va te souhaiter bon rétablissement. Une putain de bonne fin de saison, en tout cas pour toi et pour l'UBB, parce que
Merci
c'est vrai que vous
beaucoup.
nous régalez cette année et que l'année dernière, on était aussi tout autant frustrés que vous aussi de ne pas vous voir aller au bout. Et je dis ça alors que je suis passionné du Stade français, mais l'année dernière, autant te dire que heureusement pour eux que la
Ouais,
saison s'est
c'est
terminée.
clair.
Et une très très bonne fin de saison à toi, à vous. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et comme je le dis à chaque fin d'émission, éteignez vos GSM, regardez par la fenêtre. La vie, elle est d'autant plus belle après ce très très bon moment. Merci beaucoup, Jefferson.
Merci
Merci beaucoup.
Jefferson.
À bientôt.